Au début de ce mois d'octobre, nous nous intéressons à la prise en charge et à la recherche sur le cancer du sein.
Avec plus de 60 000 nouveaux cas diagnostiqués en France en 2023, le cancer du sein reste le cancer le plus fréquent chez la femme. L'Oncopole, centre d'expertise à Toulouse et pour l'ensemble de la région Occitanie, accueille chaque année 2 800 patientes. De quelle prise en charge bénéficie-t-elle? Quelles sont les avancées de la recherche? Nous en parlons avec Eva Jouve, docteur chirurgien, sénologue et co-responsable du comité sénologie de l'Oncopole. Bonjour docteur.
Bonjour.
Un tiers des cancers féminins sont des cancers du sein. Comment, docteur Jouve, les traitements ont-ils évolué ces dernières années?
Oui, dans le cancer du sein, il y a eu de grands bouleversements, en effet, ces dernières années. Vous connaissez sans doute, le traitement classique de chirurgie, radiothérapie, hormonothérapie. Mais en effet, maintenant, vous pouvez entendre, bien sûr, chimiothérapie, pardon, je l'ai peut-être déjà dit, mais les immunothérapies, les thérapies ciblées, les termes comme inhibiteurs de CDK4-6, tout ça, c'est de grands bouleversements qu'il y a eu ces dernières années et qui nous ont permis de grandement améliorer la prise en charge des patientes, de personnaliser le traitement. Donc, il s'agit de nouvelles classes pharmaceutiques, thérapeutiques, mais aussi de nouveaux parcours de soins, parce que initialement, on effectuait toujours le traitement chirurgical en première intention. Ultérieurement, on peut utiliser de la chimiothérapie, comme on a dit, pour éviter les risques de récidive locale et à distance. Puis parfois, pour diminuer le volume de la tumeur, on a choisi de mettre la chimiothérapie en première intention. Et aujourd'hui, ce traitement médical de première intention a un autre intérêt. Il nous permet d'étudier la façon dont la tumeur va répondre au traitement. Et aujourd'hui, les indications de traitement médical en première intention sont donc plus fréquentes. Et cela peut correspondre à des chimiothérapies associées à de l'immunothérapie ou associées à des thérapies ciblées. Et cela nous permettra, selon la réponse de la tumeur observé le jour de la chirurgie, d'adapter les traitements ultérieurs, ce qu'on appelle les traitements post-néoadjuvants. Et toute cette richesse de traitements nous a permis justement d'apporter une personnalisation de la prise en charge à la patiente, à sa tumeur.
Et est-ce que pour autant ça peut éviter la chirurgie à terme?
Alors pas encore.
Pas forcément, non.
Pas encore, mais c'est une très bonne question, puisque il y a des axes d'études en ce sens. Pas encore.
Pas encore. Bon, alors justement, nous allons parler de ces études et de la recherche qui continue pour le cancer du sein. Je voudrais quand même qu'on s'arrête sur ce parcours rapide que vous avez mis en place, qui est dédié au cancer du sein agressif et aux jeunes femmes. De quoi s'agit-il, docteur Eva Jouve?
Alors, en effet, je crois que maintenant, tout le monde a compris qu'il n'y avait pas un cancer du sein, mais plusieurs cancers du sein. Qu'il y avait des tailles de tumeurs différentes. Et je rappelle que le dépistage permet de découvrir des maladies de petite taille et donc de meilleurs pronostics, mais aussi la carte d'identité du cancer qui nous permet de mieux identifier son agressivité. Ainsi, dès le diagnostic de la maladie, on aura déjà une idée du parcours de soins qui va être nécessaire et d'une certaine rapidité nécessaire dans ce parcours pour faire face à la rapidité du cancer. C'est un parcours rapide qui est en place dans la phase thérapeutique à l'Oncopole, mais nous avons souhaité, dès l'appel de la patiente, la prendre en charge un peu plus rapidement si on identifie qu'il s'agissait d'une tumeur agressive. Il a fallu former nos assistantes médicales à l'accueil téléphonique pour essayer de bien identifier ces patientes-là. On a bien sûr un backup médical pour les aider. Cela concerne en effet les tumeurs agressives, mais aussi le cas particulier des patientes jeunes ou très jeunes, voire les patientes enceintes qui ont besoin de parcours complexes qu'il faudra mettre en place vraiment rapidement.
Très jeune, c'est quel âge?
Alors, à moins de 40 ans, on leur propose ce parcours rapide. Et ce qu'on considère comme très jeune, c'est moins de 35 ans.
D'accord. Et quels signes peuvent alerter justement pour une prise en charge extrêmement rapide?
Alors, merci de cette question parce que ce ne sont pas des signes cliniques, ce sera avant tout les résultats d'une biopsie. Donc ce n'est pas la patiente qui peut juger si elle relève de ce parcours rapide ou non. Tout de même, si une patiente, quel que soit son âge, ressent un nodule, donc une grosseur dans le sein, a priori qui grossit rapidement, et surtout si des signes apparaissent sur la peau de rougeur, d'œdème, voire de douleur, ce sont des manifestations rares de cancer du sein qu'on appelle cancer du sein inflammatoire, mais pour lesquelles j'encourage toute femme à consulter rapidement un médecin traitant, une gynécologue ou une sage-femme.
Mmh. Dans quelle proportion un cancer du sein pris tôt a-t-il des chances d'être mieux traité? Est-ce qu'on a une idée, un ratio peut-être?
Alors aujourd'hui, il me semble que 60% des cancers du sein sont en phase précoce. Et c'est absolument c'est une clé indispensable pour un bon pronostic, ce qui est le cas dans 85% des cancers du sein en France.
Mmh, oui, donc ne pas hésiter vraiment
tout à fait.
Ouais, à consulter. Docteur Evajou, où en est la recherche en matière de cancer du sein?
Alors, la recherche avance à tous les niveaux. Alors, bien sûr, on a la recherche fondamentale qui va analyser le micro-environnement et ce qui a permis justement le développement, par exemple, de l'immunothérapie.
Qu'est-ce que vous appelez le micro-environnement?
Le micro-environnement seront les cellules, les lymphocytes péritumoraux qui vont permettre de lutter par eux-mêmes contre la maladie. Et c'est sur ce type de cellules qu'on s'appuie aujourd'hui pour développer les traitements.
En fait, c'est pour les renforcer, pour qu'elles puissent contrer les cellules cancéreuses.
On pourrait le dire comme
ouais,
ça.
Oui, enfin, grossièrement. Voilà.
Et aujourd'hui, justement, si on reparle de l'immunothérapie, à l'Oncopole, nous avions participé il y a 4 ans à l'étude internationale qui a permis de mettre en place cette immunothérapie dans les traitements standards du cancer du sein. Alors, il est vrai, aujourd'hui, on parle parfois, on peut parler d'escalade thérapeutique, c'est-à-dire qu'on identifie mieux certaines maladies, enfin, les maladies agressives pour éventuellement rajouter des traitements. Mais on pourra avoir des essais cliniques de désescalade thérapeutique également, par exemple dans des formes peu agressives de maladies du sein, qu'on appelle le carcinome in situ. Nous avons une étude en cours en radiothérapie qui peut permettre de sursoir à la radiothérapie. Donc on a des essais thérapeutiques qui vont dans les deux sens pour vraiment de plus en plus enrichir nos différents traitements et apporter des réponses de plus en plus précises pour chaque cas qui se présente à nous.
Mmh. Alors évidemment, on le sait, hein, les effets secondaires de tout traitement pour lutter contre le cancer sont non négligeables. Est-ce que là aussi, il y a une recherche pour les alléger un peu?
Alors, la recherche sur les effets secondaires, c'est une question un peu difficile.
Ah oui.
Je crois que, justement, quand on cherche à parler de désescalade,
oui, c'est, ça.
C'est qu'on
c'est
cherche
ce qu'on a, voilà,
à obtenir le même taux de guérison avec moins de traitements ou des traitements moins agressifs. D'ailleurs, on a eu aussi, il y a maintenant quelques années, le développement des signatures génomiques qui permet dès le diagnostic, enfin, dès le diagnostic chirurgical, hein, pour être plus précise, d'affiner l'agressivité de la tumeur et parfois de sursoir à la chimiothérapie pour renforcer le traitement plutôt type hormonothérapie. Oui, notre objectif, c'est vraiment d'avoir le plus d'efficacité possible avec le moins d'effets secondaires possible. Mais il est vrai qu'il y a des parcours qui restent complexes, qui sont nécessaires pour certaines maladies agressives. Mais d'ailleurs, sur le dernier congrès européen de l'ESMO, on a eu des résultats qu'on appelle pour nous très importants en survie globale sur l'immunothérapie, malgré les effets secondaires qu'on observe et qu'on accompagne sur l'établissement.
Oui, oui, bien sûr. Vous avez autre chose à nous dire sur la recherche ou un autre axe avant qu'on parle des aidants?
La recherche, je dis, il peut y avoir la recherche fondamentale, la recherche clinique, donc ce sont les essais directement sur l'établissement.
Donc là, c'est vraiment à l'Oncopole même, ce que vous faites.
Oui, même la recherche translationnelle, c'est-à-dire entre la recherche fondamentale et la recherche clinique, tout ceci peut se dérouler à l'Oncopole. Peut-être il faut préciser qu'en effet, c'est une recherche qui se situe à toutes les phases de la prise en charge, diagnostique, thérapeutique, comme on vient de le voir, également dans la phase de surveillance. Il est possible qu'à l'avenir, on ait des moyens de détection précoce du risque métastatique, comme l'ADN tumoral circulant. Et aujourd'hui, des études sont en cours sur l'oncopole pour certaines patientes suivies à l'oncopole et à haut risque de récidive, pour voir si certaines stratégies thérapeutiques permettraient d'améliorer le pronostic.
Et ben voilà, un beau signe d'espoir.
Tout à fait.
Alors, je voudrais qu'on parle des aidants, parce qu'évidemment, ils sont en première ligne dans la lutte contre le cancer. Et alors, vous avez participé à un podcast. Est-ce que vous pouvez nous en parler et puis nous dire un petit peu comment ça les aide et quelles sont les aides qui peuvent leur être apportées?
Oui, tout à fait. Alors, l'Oncopole a produit tout d'abord Le Chemin d'Émilie, qui est une web-série les années précédentes, très dynamique sur tous les aspects de la prise en charge du cancer, qu'on vient d'aborder aussi, mais d'autres encore. Et inspiré de cette web-série, Le Chemin d'Émilie, est venue l'idée de créer un podcast sur les aidants et leur rôle auprès des patients. Donc, pour nous, c'était un axe important d'apporter ces témoignages et de répondre peut-être aux interrogations des aidants, les guider. Ça a été une expérience très intéressante parce que c'est peut-être pas notre premier axe de soins ou d'attention. Et pourtant, avec les aidants, on va créer un lien, on va créer un maillage qui nous permet d'accompagner les patientes et les patients.
Et d'autant plus que, vous le disiez en préparant cet entretien, que souvent les aidantes sont des femmes et s'occupant d'une autre personne, se négligent elles-mêmes et risquent de ne pas prendre conscience qu'elles ont aussi besoin d'un traitement.
Oui, c'est vrai. On peut être aidante ou aidant dans la pathologie du cancer, mais on le sait aussi pour nos aînés dans les pathologies dégénératives type maladie d'Alzheimer ou pour toute autre maladie. Souvent, les aidants sont des aidantes et lorsque je rencontre parfois certaines patientes qui se sont, comme vous le disiez, oubliées, qui n'ont pas pris le temps d'aller voir leur médecin parce qu'elles avaient senti quelque chose, parce qu'elles se sont mises en seconde position, je peux constater qu'on peut être parfois sur un retard diagnostique. Donc, si je peux encourager toute patiente s'oublie, toute personne qui est chez elle, qui a pu sentir une grosseur, il n'est jamais trop tard pour aller voir son médecin traitant, sa sage-femme, ou pour rentrer dans la campagne de dépistage, même si on n'y est pas rentré à 50 ans. Et c'était un point assez important pour moi, en effet. Mmh.
Alors, un dernier mot, puisqu'il y a maintenant ce vaccin HPV pour la prévention du cancer de l'utérus, le lien avec le cancer du sein, on le comprend bien. Quel espoir ça vous donne, vous, dans l'accompagnement des malades?
Alors, le vaccin HPV est aujourd'hui le seul vaccin qu'on a en cancérologie. Je pense que c'est très important d'en bénéficier. Ça la concerne les enfants, jeunes adolescents, entre 11 et 14 ans. Il faut l'accord de leurs parents pour faire ce vaccin. Il est maintenant administré depuis de nombreuses années, notamment aux petits garçons et aux petites filles en Australie, en Suède, depuis de nombreuses années, pays qui ont réussi quasiment à éradiquer le cancer du col. Il faut absolument qu'en France, on puisse prendre cette voie. Et j'encourage vraiment tous les patients, tous les parents à accepter la vaccination chez leurs enfants, puisqu'aujourd'hui, nous avons bien montré l'innocuité de ce vaccin et le grand bénéfice pour le cancer du sein, cancer du col de l'utérus, mais aussi certains cancers de la bouche, certains autres cancers pour lesquels les garçons peuvent être concernés.
D'accord, merci pour ces précisions. Merci beaucoup, docteur Eva Jouve, chirurgien sénologue et co-responsable du comité sénologie à l'IUCT Oncopole. Et puis, je donne le nom de ce podcast parce que je ne l'ai pas nommé. Il s'appelle « Le chemin des aidants ». Merci beaucoup.
Merci à vous.